10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour et bon dimanche. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla et de SpaceX, rachète la totalité de Twitter pour 44 milliards de dollars et fait trembler pas mal de monde. Rémi Devaux, l'un des deux auteurs du livre Le Nouveau Western, va nous expliquer pourquoi. Je recevrai ensuite l'historien Eric Allary qui publie une histoire des enfants de 1890 à nos jours, comment on est passé en un peu plus d'un siècle, de l'enfant qui travaille comme tout le monde à l'enfant roi, de l'enfant sans aucun droit à l'enfant qui a tous les droits. Et l'on terminera l'émission avec Géraldine Lenain qui, dans son livre Le dernier Maharaja d'Indore, ressuscite un âge d'or, celui des Maharajas. Pendant la première moitié du XXe siècle, c'était encore parmi eux que l'on trouvait les hommes les plus riches du monde.
Europe 1.
Bonjour Rémi Devaux.
Bonjour.
Vous êtes économiste, doctorant à l'École des Mines, aujourd'hui Mines Paris Tech, et vous publiez avec Olivier Bamsel au Cherche Midi Le Nouveau Western. Alors qu'est-ce que vous appelez Le Nouveau Western ?
Si vous voulez, au début des années 90, on ne savait pas tellement à quoi allait servir Internet. Il y a eu des gros investissements des États-Unis sur des technologies de fibre optique qui permettaient en fait, aux entreprises majoritairement de faire d'énormes gains de productivité. Mais il y avait une volonté de développer l'usage de ces technologies pour le consommateur. Les États-Unis ont bâti un cadre institutionnel qui était très incitatif pour les entreprises pour qu'elles puissent commercialiser des services aux consommateurs sur Internet. Et en ça, on est très proche du modèle du Western, au sens où la conquête de l'Ouest, qui est un mythe fondateur des États-Unis, c'est un moment historique dans lequel il y a une frontière, un territoire, si vous voulez, à conquérir. Et la conquête de ce territoire, elle a des effets positifs énormes pour toute la société. Donc ce qui marque la conquête, c'est précisément l'absence de loi. Et dans le cadre d'Internet, on est vraiment dans cette configuration où on a un marché très porteur et on va instituer le plus de liberté possible aux entreprises sur cette industrie.
Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, rachète l'intégralité des actions de Twitter pour 44 milliards de dollars. Il en sera l'unique propriétaire. Pour cela, il a emprunté 21 milliards à la banque Morgan Stanley. Twitter, je le rappelle, c'est un réseau social, l'un des principaux canaux de communication et de débat, beaucoup fréquenté par les journalistes, par les activistes. Cette annonce fait trembler pas mal de monde. Hein.
En effet, on a beaucoup parlé de la politique de modération d'Elon Musk qui veut donner le plus de liberté possible aux gens pour s'exprimer sur Twitter. Je pense que le débat n'est pas là en vérité. Le vrai risque de l'acquisition de Twitter par un industriel, il est sur deux plans qui sont en fait, on va le voir, assez représentatifs de ce qui se passe dans l'économie numérique. Ce qui peut frapper en premier lieu, c'est qu'Elon Musk ne s'achète pas un média comme un autre, il s'achète Twitter, un réseau social, qui est sous statut d'hébergeur. Donc autrement dit, qui n'est pas responsable directement des propos qui sont émis par les utilisateurs.
À la différence d'un journal.
Hein. À la différence d'un journal.
Un de vos journalistes insulte quelqu'un, le directeur du journal ou le directeur de la chaîne ou le directeur de la station de radio est responsable, pas sur Twitter.
Absolument. Pourtant, Twitter a un média au sens où il y a un algorithme qui va trier les tweets quand vous arrivez sur Twitter ou vous recherchez un sujet. Ça, c'est une ligne éditoriale qui n'est pas sous statut d'éditeur. Donc, ce qui veut dire que le risque potentiellement, c'est que Elon Musk instrumentalise la ligne éditoriale de Twitter au bénéfice de ses intérêts industriels qui sont assez divers, donc qui vont de Tesla à SpaceX, et qui l'utilise, si vous voulez, qui l'utilise comme... comme vecteur de potentiel conflit d'intérêts. Ce qui se passe en fait assez souvent dans l'économie numérique.
Mais ce qui est quand même intéressant dans l'achat d'Elon Musk, c'est depuis qu'il a été annoncé, tout le monde ne s'inquiète pas non tellement de la censure qu'il pourrait exercer sur l'un des premiers ou des plus importants réseaux sociaux. Non, on s'inquiète qu'il y laisse tout le monde s'exprimer. Et notamment Donald Trump, puisque c'est celui qui non seulement a beaucoup fait pour la popularité de Twitter, mais qui en a été exclu.
Absolument, mais en ça, il joue totalement du statut d'hébergeur dont il bénéficie, qui est la possibilité, si vous voulez, de ne pas être responsable de ce qu'il dit sur Twitter. Donc, il veut en tirer parti au maximum. Dans les faits, on voit que ça n'a pas toujours marché, parce que Twitter s'est quand même mis à censurer Donald Trump, comme vous venez de le mentionner, de le rappeler. Et ce n'est pas, si vous voulez, pour des raisons spéciales en politique, c'est qu'à un moment donné, Trump a amené beaucoup d'utilisateurs sur Twitter, ça a fait de l'audience. Cependant, à un moment donné, ça a aussi fait fuir les annonceurs qui en avaient marre d'être associés aux tweets de Donald Trump, d'apparaître dans la timeline avec des tweets de Donald Trump, si vous voulez. Et donc Twitter s'est mis à le censurer. Donc,
surtout une fois qu'il n'était plus président et puis qu'il y avait eu évidemment les événements du Capitole.
Ah, absolument. À partir de ce moment-là, Donald Trump devenait un poids pour les annonceurs et les revenus Twitter, ce qui a poussé à
la décision de bloquer. Et comme il était devenu faible par la même occasion, on pouvait s'en débarrasser plus facilement. Absolument. Au fond, ce qu'a l'air de laisser entendre Elon Musk, c'est qu'on n'exclura plus jamais personne de Twitter maintenant qu'il en est le propriétaire. Mais ça n'a pas l'air de réjouir tout le monde.
Non, non, mais l'arbitrage, si vous voulez, la ligne économique de Twitter, ça va vraiment être ça. Ça va être d'arbitrer entre l'audience et les annonceurs qui vont être attirés par les propos polémiques. Donc, c'est toujours cette double arbitrage. Mais étant donné que maintenant Twitter va être lié à des intérêts industriels, on peut tout à fait imaginer que Musk va faire de la perte sur Twitter pour pousser des intérêts éventuellement de Tesla ou SpaceX. Et dans ce cas, il y a un système de subventions croisées par lequel les pertes de Twitter vont être compensées par les autres affaires d'Elon Musk. D'où le problème de laisser ça à des intérêts industriels.
Mais le problème, c'est quand même ce prix, 44 milliards de dollars. Est-ce que Twitter vaut 44 milliards de dollars alors que c'est un réseau social qui peine à gagner de l'argent, en tout cas avec la publicité, son résultat net est déficitaire cette année de 220 millions. Pour rembourser son emprunt, ça ne va pas être simple. Hein.
Twitter reste quand même un monopole sur ce marché qui est l'actualité en direct et la réaction. Donald Trump a essayé de lancer un réseau concurrent qui périclite plus ou moins. Et globalement, c'est le cas de tous les autres sites de microblogging. Donc Twitter a la valeur d'un monopole en ça.
Alors justement, Google, Amazon, Facebook sont devenus eux aussi des monopoles, hein, des trusts, comme on dit, qui occupent de telles positions dominantes, quasi monopolistiques, que l'on parle régulièrement aux États-Unis de les démanteler. On fait une pause, Rémi Deveau, on en parle juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Rémi Deveau, qui avec Olivier Bobsel vient de publier le nouveau western au Cherche Midi. On est parti d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui vient d'acheter pour 44 milliards de dollars Twitter. Et évidemment, on en arrive à tous les géants de la tech qui sont tous devenus, ou du moins la plupart d'entre eux, sont devenus des trusts occupant des positions monopolistiques à tel point qu'aux États-Unis, on parle de les démanteler. Il y a un précédent historique célèbre, hein, celui de la Standard Oil de John D. Rockefeller, le premier monopole pétrolier à la fin du 19e siècle. Il a été démantelé en 1910 par la loi Sherman.
Il y a une grande tradition de démantèlement des monopoles aux États-Unis, notamment par l'usage du Sherman Act. Si vous voulez, ce qui est très différent aujourd'hui avec les monopoles Internet, c'est deux choses. C'est qu'à l'époque, les monopoles étaient ce qu'on appelle des trusts, c'est-à-dire que c'était des cartels de concurrents qui émergeaient sur des grandes industries sur lesquelles il y avait des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, plus on produisait, moins c'était cher. Et donc, on avait comme ça une poignée de grandes firmes qui se partageaient le marché. Et au lieu de se faire concurrence, ces firmes se sont groupées entre elles. Donc, ça a donné la Standard Oil, qui était le trust pétrolier de Rockefeller. Ça a donné aussi l'American Tobacco Company, qui était un cartel du tabac. Si vous voulez, c'est très différent de l'économie numérique en ce détail qu'aujourd'hui, on n'a pas des trusts, on n'a pas des alliances, des cartels, mais on a des monopoles. Parce que sur Internet, il y a, en plus d'économie d'échelle, il y a un effet qui s'appelle l'effet de réseau, qui font que plus un service est utilisé, plus il y a de consommateurs d'un service et plus celui-ci est utile. Donc ça mène à la fin à une seule grande plateforme qui concentre tous les utilisateurs. Et si vous voulez, c'est la deuxième chose qui a changé par rapport à cette économie de trust, c'est qu'on a aujourd'hui une loi économique, donc qu'on appelle l'antitrust, qui est beaucoup plus favorable en fait au monopole numérique parce que il y a eu un virage qu'on appelle néolibéral dans la régulation économique qui tend à considérer qu'un marché efficace si les prix des produits sont faibles. Donc en l'occurrence, Google, Facebook, Amazon proposent des services qui sont soit gratuits, soit moins chers que le marché. Et en ça, ils arrivent en tout cas à s'attirer les bonnes grâces du régulateur. Et il est beaucoup plus difficile de démanteler parce qu'on n'est plus dans le même logiciel antitrust qu'à l'époque de Rockefeller.
On a bien compris que Internet, c'est la nouvelle frontière, hein, comme le Far West autrefois. Mais il y a un cadre légal, hein, c'est le Telecom Act de 1996. Grosso modo, Internet, c'est une vaste prairie dans laquelle chaque start-up peut, à partir d'un ordinateur connecté, développer ses services en toute légalité.
Absolument, en toute légalité. Et ce qui est important dans le Telecom Act, c'est vraiment ce statut d'hébergeur qui court encore aujourd'hui. Et dont même le DSA, donc le Digital Service Act, qui a été adopté le week-end dernier, n'en met pas en cause.
l'hébergeur n'est pas responsable de ce qui se passe sur sa plateforme.
Non, c'est un intermédiaire technique. Donc, ça reçoit des informations. Et si vous voulez, c'est les utilisateurs qui vont être responsables et pas l'intermédiaire lui-même. Or, les algorithmes qui présentent les contenus ont une fonction éditoriale qu'il s'agirait de réguler et de sanctionner.
Alors, on ne peut pas forcément parler à chaque fois de monopole. Google, Amazon, Facebook, Twitter sont des monopoles. Il y a des effets de taille et des effets de réseau. Mais Microsoft, Apple ou Tesla ne sont pas des monopoles.
Absolument. D'ailleurs, dans le livre, si vous voulez, on se concentre sur Google, Facebook et Amazon. Et on a exclu un petit peu Apple et Microsoft, contrairement à ce qui se fait en général quand on parle de GAFAM. Bah, pour la raison simple, en effet, que vous venez de dénoncer, qui est que, en fait, Apple et Microsoft se basent sur déjà pas des services Internet, mais des produits physiques sur lesquels ils ne sont pas en monopole. C'est-à-dire que Dell, Linux ou Samsung sont autant de concurrents à Apple et Microsoft.
C'est comme pas le Renault, Volkswagen sont des concurrents de Tesla.
Ah, absolument, absolument. Et donc, si vous voulez, en plus de commercialiser des produits physiques, et donc d'être en ça différent de Google, Facebook, Amazon qui sont des services en ligne, omniprésents, c'est, si vous voulez, il y a bien des abus d'Apple et Microsoft, mais au sein de leurs écosystèmes qui se basent sur des produits physiques qui, eux, ne sont pas en monopole.
Alors, effectivement, ces monopoles, il est question de les démanteler. La question revient régulièrement aux États-Unis. On leur reproche de verrouiller les marchés, d'acheter tous leurs concurrents. Facebook a acheté, par exemple, Instagram à sa naissance, puis WhatsApp. Google répète qu'il n'est qu'à un clic de ses concurrents, donc il a des concurrents. Mais enfin, on sait bien, même si rien ne nous empêche d'utiliser un autre moteur de recherche, on ne le fait pas. Au début, ils ont défriché, ils ont viabilisé des espaces qui étaient complètement vierge, mais aujourd'hui, ils en arrivent à concurrencer carrément les États. C'est bien ce que les Américains leur reprochent, d'ailleurs.
C'est en effet ce que les Américains leur reprochent. Si vous voulez, il y a deux types de troubles qui sont causés par les monopoles numériques. Il y a des troubles qui sont proprement économiques et qui concernent l'accès au marché. Quand Amazon, qui est une plateforme de commerce en ligne, va se mettre à devenir producteur de biens, donc va concurrencer ses propres vendeurs sur sa plateforme, et même va aller jusqu'à proposer des offres logistiques, il y a un conflit d'intérêts entre ces trois activités qui font qu'il est difficile pour les concurrents d'Amazon de s'implanter sur le marché, voire même pour les clients d'Amazon. Le deuxième problème de ces plateformes, c'est qu'il y a des nuisances politiques qui sont dues au statut d'hébergeur, à leur irresponsabilité. Donc, typiquement, vous parliez de la prise du Capitole, qui n'est pas la faute de Facebook, mais qui a été permise en tout cas par l'usage que Donald Trump a fait de Facebook et de Twitter. Et donc c'est pour ça qu'on parlait jusqu'à récemment de les démanteler. Les États-Unis ont nommé à la tête de leur commission antitrust Lina Khan, qui est une juriste qui a fait des travaux assez brillants sur les positions de monopole des plateformes numériques et leur éventuel démantèlement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment depuis la guerre en Ukraine, la position des États-Unis là-dessus a beaucoup changé.
Oui, j'allais vous le dire, puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, Facebook, Google, Apple, Amazon sont pas du tout restés neutres. Ils ont pris activement position contre la Russie. Et Elon Musk a carrément livré à l'Ukraine ses systèmes de réception du web via les satellites Starlink qui appartiennent à SpaceX. Et il l'a fait en 56 heures. Pourquoi est-ce que l'Amérique voudrait démanteler des alliés aussi efficaces ?
En temps de guerre, en effet, la question se pose plus du tout de la même façon. Et Google, en l'occurrence, Google et Facebook ont été assez malins et ils ont réussi à tirer parti de la conjoncture politique actuelle. Ce que ça montre, c'est que l'antitrust, c'est une question politique et quand ça, c'est très dépendant des effets de conjoncture et que là, depuis maintenant un mois ou deux, on ne parle plus du tout de démanteler les monopoles numériques. En fait, on les utilise comme des outils de soft power très forts.
Et est-ce que ce serait l'intérêt des États-Unis de démanteler ces monopoles alors que face à eux, il y a des Chinois ?
Bah, c'est une de leurs contradictions internes, mais cela dit, si on regarde en Chine, les monopoles numériques ont subi une régulation très forte depuis un an ou deux. Notamment, un des premiers cas, ça a été la filiale bancaire d'Alibaba, donc du groupe de Jack Ma, dont l'introduction en bourse a été annulée. Parce que, si vous voulez,
Jack Ma a disparu d'ailleurs pendant
un
certain temps.
Jack Ma a totalement disparu, et si vous voulez, la régulation ne répond pas du tout évidemment aux mêmes objectifs en Chine et aux États-Unis. Mais en Chine, le parti est très concerné par l'émergence de grandes firmes qui pourraient soit déstabiliser des entités économiques d'État comme la banque, par exemple, ou alors qui pourraient détourner aussi les gens ou les jeunes en général du parti. C'est pour ça qu'il y a eu des régulations sur l'usage des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Et si vous voulez, la Chine est aussi dans une dans une position où ils doivent arbitrer entre les effets positifs, le soft power de ces géants du numérique et aussi leurs effets négatifs en interne.
Eh bien, ce western n'est pas prêt de finir. Hein. Merci Rémi Devaux d'être venu sur Europe 1 pour nous le raconter. Le nouveau western, ça vient de paraître au Cherche Midi. On fait une pause, on va s'intéresser aux enfants. Et oui, les enfants aussi ont une histoire. Et elle n'est pas si longue que ça. A priori, on peut la faire débuter en 1890. Vous allez voir.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
L'enfant de nos jours est sacré, je parle des moins de 13 ans. Hein. L'enfant a été choisi, il est choyé, protégé, il a des droits. Certains diront même qu'il a tous les droits, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Éric Allary, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes historien et vous venez de publier chez Passé Composé une histoire des enfants. Elle est datée de 1890 à nos jours. En effet, c'est seulement vers 1890, avec la Belle Époque, au tournant donc du 19e et du 20e siècle, que les enfants naissent réellement en tant qu'enfants, hein, qu'ils deviennent des personnes particulières, qu'ils ont une histoire qui leur est propre au fond.
Oui, c'est cela. On s'aperçoit qu'à la Belle Époque, c'est-à-dire en gros de la fin des années 1890 jusqu'à 1914, il y a une forme d'intérêt neuf pour l'enfant. Alors évidemment à travers l'œuvre de l'instruction publique qu'on appelle l'éducation nationale aujourd'hui, parce que la République avait besoin de s'affermir. Et en même temps, on remarque qu'il y a déjà des spécialistes de médecine, des spécialistes de virologie, par exemple. Pasteur, déjà, s'était intéressé aux enfants, considérant qu'ils étaient aussi des êtres vivants avec une identité et pas seulement des objets, pas seulement des âmes à sauver, comme au Moyen-Âge. Et un peu moins, mais c'est encore vrai, en tout cas un peu moins, une bouche à nourrir. Hein, il n'y a pas si longtemps encore, l'enfant était considéré comme une bouche à nourrir. C'est encore un peu le cas tout de même à la Belle Époque. Mais c'est vrai que l'enfant prend une place un peu neuve dans l'histoire du pays.
Ne serait-ce que parce que à la fin du 19e siècle, les enfants cessent de travailler et vont à l'école gratuite et obligatoire. Bon, ils travaillent encore dans les campagnes, mais officiellement, le travail des enfants quand même est interdit.
Il y a ça qui compte énormément. Hein. Ce que vous dites est fondamental. Effectivement, l'école est obligatoire depuis 1882. Elle est obligatoire au moins jusqu'à 13 ans, une fois le certif en poche pour ceux qui pouvaient l'avoir. Alors, certains enfants pouvaient quitter l'école avant, vers 11 ans, les précoces en fait, c'est-à-dire les surdoués de l'époque, qui avaient le certificat plutôt que les autres. Et il y a aussi une autre donnée qui est importante à l'époque, c'est l'avancée rapide de la science et de la médecine qui fait gagner des années de vie aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant, quelque part, meurt un peu moins souvent. Et les familles commencent à un peu mieux contrôler aussi les naissances, souvent par nécessité économique, puisque la France, le monde, ont connu une crise mondiale dans les années 1880-90. Donc l'enfant commence à être perçu différemment. C'est bon, il ne parle toujours pas à table, hein, il n'a toujours pas son mot à dire, mais il commence à être perçu différemment. Il s'agit d'un être humain, plus d'un être humain qu'autrefois, et même s'il reste encore un produit du droit lorsqu'il s'agit d'héritage, de filiation. Donc les critères de définition de l'enfance, effectivement, évoluent, commencent à évoluer. Il y a une accélération du regard sur l'enfant, à la fois juridique, à la fois humain, à la fois affectif.
Pendant la Première Guerre mondiale, les hommes sont au front, les femmes les remplacent à l'arrière. Qu'est-ce que ça change pour les enfants ?
Pour les enfants, ils se retrouvent dans une position absolument inédite dans l'histoire. Alors bien sûr, il y a eu d'autres guerres avant, mais pendant la Grande Guerre, les enfants se retrouvent notamment dans le milieu paysan. Bon, plus de 50% des Français, donc des enfants, sont des paysans. Ils se retrouvent à faire des tâches d'hommes. Et donc, sans les enfants, les mères ne s'en seraient pas sorties. Et du reste, lorsqu'on lit les échanges épistolaires entre les enfants et leurs pères, on voit bien que les pères essayent d'éduquer à distance les enfants, surveillent la conduite de leurs études à l'école communale, etc., etc. Quels que soient les milieux, que ce soit les milieux bourgeois, citadins, bourgeois, ruraux, pauvres, citadins, il y a ce point commun pour les enfants, c'est l'absence du père. Et c'est pas une absence qui dure 2 mois, 3 mois, comme les Français le croyaient en août 1914, mais ça va durer plus de 4 ans. Et ça, c'est un traumatisme extraordinaire. L'enfant vit dans l'ombre du père, sans mauvais jeu de mots, et bientôt dans le deuil. On est dans le morose, le sombre, de façon perpétuelle. Et combien d'enfants racontent dans leurs lettres, leurs récits, parfois plus tard, lorsqu'ils sont adultes, avoir vu leur mère pleurer tous les jours et ne pas savoir quoi faire pour les aider un petit peu plus.
Pendant l'entre-deux-guerres, les enfants sont moins nombreux et pour cause, hein, les futurs pères sont morts dans les tranchées, les mariages sont plus rares, la natalité baisse. Est-ce que ça rend les enfants plus précieux ?
Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question de l'enfant plus précieux. Effectivement, dans l'entre-deux-guerres, il y a moins de bras. Il faut être un peu cru hein, ici, mais il y a moins de bras. Donc il vaut mieux faire attention à ces bras qui seront très utilisés dans les champs. Dans l'entre-deux-guerres, il y a plein de choses qui sont acceptées. Il y a plein de tolérances nouvelles. Et pour l'enfant, effectivement, il y a une sorte de protection qui commence. Il y a de plus en plus d'éducateurs, de spécialistes de la pédagogie qui réfléchissent notamment à un meilleur enseignement à l'école pour l'enfant, un meilleur enseignement à donner à l'enfant. Et en même temps, on s'aperçoit tout de même que l'enfant n'a pas encore énormément de droits et qu'on a encore une très nette séparation entre les garçons et les filles à l'école et dans les différentes familles. Mais il y a de nouveaux regards. Le problème, c'est que très souvent, les Français, mais pas que les Français, on pourrait dire les Européens en général, disons que l'enfant est vu plutôt comme encore un adulte en miniature. Et donc ça, c'est une représentation qui est très difficile à faire évoluer tout de même.
C'est pas avec la Seconde Guerre mondiale qu'elle va évoluer, parce que les enfants, à ce moment-là, subissent les bombardements, les combats, l'exode, les abandons, les privations. Ils sont touchés de plein fouet.
Oui, on pensait qu'ils avaient vécu le pire hein, pendant la guerre 14-18. Là, c'est tous les enfants. D'abord, une partie de la France jusqu'en novembre 42, puis ensuite, l'ensemble de la France. Les enfants vont connaître l'exode. Plusieurs millions d'enfants vont connaître l'exode. 90 000 enfants vont être perdus pendant l'exode. La Croix-Rouge ne saura qu'en faire après la guerre, cherchant désespérément les parents. Donc il y a les enfants qui meurent sur les routes de l'exode. Il y a les enfants qui deviennent fous à cause des bombardements. Il y a les enfants qui sont perdus. Tous les repères sont brouillés en quelque sorte. L'enfant est tout le temps en danger, mais Vichy va l'encadrer. Vichy va le prendre dans sa propagande, va l'endoctriner, va lui faire de plus en plus de sport alors que l'enfant a de moins en moins de calories et de moins en moins de possibilités de se chausser pour faire du sport avec des belles chaussures en cuir puisque tout est rationné. Et donc, si vous voulez, l'enfant subit des traumatismes absolument inégalés dans l'histoire. Et là, pour le coup, la société va réagir à la libération, va vraiment réagir. Et la société française, mais aussi l'ensemble des organisations internationales, dont l'ONU, vont intervenir dès 1947-48 pour essayer d'étudier la nature des traumatismes des enfants, traumatismes de guerre, je veux dire.
On fait une pause, Éric Alary, on se retrouve juste après, justement pour cette période beaucoup plus heureuse pour les enfants.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec l'historien Éric Alary qui publie une passionnante histoire des enfants de 1890 à nos jours chez Passé Composé. Nous voilà dans les années 50-60, sont les années du bonheur pour les enfants, hein, pour les enfants du baby-boom. Ils ont une place importante dans la société, ils sont nombreux. On inaugure le salon de l'enfance en 1950. Les programmes pour enfants à la télévision apparaissent dans les années 60. Noël devient une institution. Les enfants grandissent avec des jouets. C'est la belle vie à ce moment-là qui commence.
Oui, c'est la belle vie. Alors, elle colle assez à cette période que nous appelons les 30 Glorieuses, hein, de 1945 à 1975. Bon, il y aura quelques nuances, évidemment, dans le détail à apporter, mais ce qu'on remarque, c'est que dans cette période d'abord de reconstruction du pays, eh bien, les enfants profitent aussi de l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Évidemment, tout le monde essaie d'apporter un peu de bonheur aux familles, aux enfants. Il y a de plus en plus de lecture possible pour les enfants et pas simplement une lecture pour les enfants dont les parents avaient les moyens hein, de s'offrir, par exemple des bandes dessinées comme Bécassine avant la Grande Guerre.
Bécassine, c'est vrai que ça, c'était des petits tirages par rapport au journal de Tintin ou au journal de Spirou après la guerre. C'est le cas aussi pour les jouets. Tout à coup, on fabrique des jouets à des centaines de milliers d'exemplaires.
Alors là, c'est ce qu'on voit surtout dans les années 60, 70 et encore plus dans les années 80. On voit des nouveaux objets arriver à la maison. Les enfants voient leur mère enfin bien équipée dans leur cuisine en formica. La télévision, évidemment, c'est un basculement important dans la vie des enfants. Et vous avez raison, l'arrivée massive des jouets. Mais ça signifie autre chose. Cet enfant qui était un être chosifié, enfin réifié, est devenu un être personnifié, en même temps une cible de la consommation de masse. Hein, le concept d'enfant du bonheur, c'est aussi le concept d'un enfant certes plus choyé, d'un enfant du désir, comme dit le philosophe Marcel Gaucher, mais c'est aussi le temps d'un enfant qui devient la cible d'une consommation de masse. Et on voit bien qu'il y a toute une éducation spécifique, exigeante, de la part des parents qui se développent autour de la réussite, mais qui passe aussi autour d'un modèle qui est celui de l'enfant consommateur, qui doit être comme les autres, qui doit être également performant à tout prix. Et parallèlement, l'enfant reste un être à protéger, car il est vulnérable, toujours vulnérable face aux dangers qui le guettent. Et bon, là, ça nous emmène évidemment jusqu'à aujourd'hui. Parmi les dangers, on identifierait facilement Internet. Mais il y a des dangers qui existent depuis toujours, pourrait-on dire. Ce sont les violences familiales, hein, les abus sexuels, bien sûr.
Mais justement, l'enfant, tout à coup, a des droits, on le voit bien, ou en tout cas, les parents n'ont plus tous les droits. La correction paternelle, par exemple, qui est devenue aussi une correction maternelle à partir de 1945, qui voulait que les parents puissent expédier, au fond, leur enfant en prison, s'ils le désiraient. Tout ça, ça s'arrête avec les années 60.
Tout ça, ça s'arrête. Ça devient absolument impensable que de faire ceci, que de faire cela. Alors, le droit international public a fait parfois évoluer le droit français dans ce domaine-là, mais c'est vrai que là, le droit va protéger l'enfant, le droit va imaginer l'enfant différemment. Il y a une représentation de l'enfant qui a changé et qui fait effectivement avancer les droits de l'enfant. Vous avez tout à fait raison. Il y a un développement des droits de l'enfant qui participe aussi de l'état de droit. Je crois que ça, on l'oublie assez. C'est que l'évolution des droits de l'enfant participe aussi de la force d'un état de droit tel qu'il a été défini depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien que l'histoire des enfants, elle est tout à fait connexe, parallèle à l'histoire des femmes qui vont au travail, et en même temps, je dirais, une forme d'histoire de la liberté. Les enfants gagnent de plus en plus de liberté, et les parents laissent de la place à l'enfant, comme d'ailleurs la famille à table le soir laisse parler les enfants, et en même temps, on autorise l'enfant à prendre les restes d'un plat, ce qui aurait été inconcevable avant. C'était simplement le pater familias qui pouvait dévorer ce qui restait dans le plat. Et donc, le revers de ceci, de cela, c'est accepter la parole de l'enfant, mais jusqu'où ? Et quelquefois, on voit bien que ça devient parfois ingérable pour de nombreuses familles. Depuis les années 80-90, on voit les études de pédopsychiatres qui montrent que y a un enfant roi qui est né ici et là. C'est un concept qui est né dans les années 80, mais il existe sûrement avant, en réalité, dans les familles, d'un enfant qui peut aller jusqu'à prendre le pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas une des conséquences de cet enfant aimé, de cet enfant désiré, peut-être trop désiré, et finalement à qui on a laissé tellement de droits que ça peut faire aussi être un des facteurs d'éclatement des familles.
Mais il faut dire aussi que l'enfant des années 80 est de plus en plus un enfant du divorce. Les parents divorcent de plus en plus, et puis dans les années 2000, ça deviendra l'enfant des familles monoparentales qui explosent. Dans les années 2010 notamment, ça passe de 3 à 4 millions d'enfants qui vivent avec un seul parent. Entre 2011 et 2018. Ce sont des chiffres qui sont dans votre livre.
Oui, sur éloquent, on voit bien, vous avez raison de le dire, ça c'est un facteur qui provoque vraisemblablement, on est encore en train d'essayer de les mesurer, des révolutions silencieuses dans les familles, dans la tête des enfants. Les modèles familiaux, effectivement, se sont diversifiés, avec beaucoup de parents célibataires, de parents divorcés, de familles recomposées. Et les enfants, en fait, subissent ces situations. Quand j'ai écrit la partie contemporaine, qui était la plus difficile à écrire en histoire, parce que, un, je suis un enfant de la fin des années 60, et donc il fallait que je raconte aussi un peu de mon enfance, et en même temps, je suis parent, et en même temps, j'ai souvent entendu dire qu'il existait des divorces heureux. Or, force est de constater que quand nous étudions les quelques sources que nous avons fournies par les pédopsychiatres sur les conséquences du divorce chez les enfants, on s'aperçoit que les conséquences, pour 88-90% des enfants de parents divorcés, les conséquences sont souvent traumatiques, pas toujours dramatiques, mais il y a un impact indiscutable sur la vie de l'enfant, sur sa vie future.
En tout cas, les enfants d'aujourd'hui, c'est les enfants des écrans et les enfants qui contestent de plus en plus l'autorité des adultes. C'est l'enfant qui doit réussir en classe, faire du sport, de la musique, qui a un emploi du temps de ministre. L'avenir nous dira ce qu'il deviendra, cet enfant-là, hein, et quel parent il deviendra.
Oui, quel parent il deviendra, en espérant que le modèle coréen du Sud n'arrive pas ou ne parvienne pas jusqu'à nous. où là, les enfants, c'est même plus des agendas de ministres qu'ils ont, c'est quasiment des agendas qui les empêchent de vivre, avec effectivement un agenda très occupé par le sport, la musique, mais surtout la réussite. Alors, la vraie question lancinante depuis les années 80, et vous le soulignez à travers votre question, c'est quelle place veut-on encore donner à l'enfant dans l'école, dans les classes, dans la famille? Voilà, est-ce que il s'agirait pas non plus, c'est une question que je pose, de digérer ce que nous avons tous déjà fait pour les enfants, et puis de les écouter aussi, de les écouter et de continuer à les protéger. Car on s'aperçoit qu'il y a encore un travail énorme de protection de l'enfance et des enfants dans certains milieux du pays.
Merci Eric Allary. Je renvoie à la lecture de votre livre « Histoire des enfants de 1890 à nos jours ». Ça vient de paraître chez Passé Composé. On fait une pause, on se retrouve juste après. On va parler des Maharajas.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Géraldine Lenain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art et vous venez de publier le dernier Maharaja d'Indore aux éditions du Seuil. C'est la biographie de Yeshwantra Holkar II. Il est mort à 53 ans, 1961. Depuis qu'Indira Gandhi avait aboli leurs subventions et leurs privilèges et a mis en place des droits de succession exorbitants à plus de 50%, les Maharajas ont quitté la scène. Mais pendant la première moitié du XXe siècle, ils rayonnaient encore, y compris en Occident, hein, et celui-ci en particulier.
Voilà, Yeshwantra était le plus grand collectionneur d'art déco au monde. C'est vrai qu'il a été propulsé au pouvoir dans les années 20, un peu contre son gré, dans des conditions absolument rocambolesques. Et c'était un dandy connu du monde entier, mais qui n'avait aucun pouvoir politique. On était sous le Raj britannique. Les Maharajas, les princes indiens, pouvaient encore régner sur leurs terres, mais finalement ne prenaient aucune décision. Ils devaient demander l'autorisation aux Anglais dès qu'ils voulaient sortir d'Inde, dès qu'ils voulaient sortir de l'argent, sortir des bijoux. Voilà, c'est...
Mais c'est là où ils sont fascinants, ces Maharajas, parce qu'ils sont à la fois... comme vous venez de le dire, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ce sont des rois sans pouvoir, parce qu'un Maharaja, c'est un roi, hein, tout simplement. Il y en a beaucoup en Inde. Ils n'ont plus de pouvoir, mais ils sont absolument couverts d'argent. Les plus riches hommes du monde dans les années 30 sont des Maharajas.
C'est vrai que l'homme le plus riche du monde était justement le Maharaja d'Hyderabad. Indore faisait partie des plus riches également. Donc Indore, c'est... Dans le Madhya Pradesh actuel, c'était le quatrième ou cinquième état le plus riche et le plus important à l'époque. Il faut savoir qu'il y en avait 565 états princiers. Ils étaient très riches pour plusieurs raisons. Quand les Anglais sont arrivés au pouvoir au 19e, et que la couronne a pris le pas sur la Compagnie britannique des Indes orientales, ils ont décidé de laisser en place ces princes indiens pour permettre de gouverner l'Inde. Ils estimaient que ça allait être plus facile de garder ces Maharajas. En revanche, ces Maharajas n'avaient plus aucun pouvoir politique. Tout ce qu'ils décidaient, c'était uniquement dans les quartiers de femmes, dans le Zenana. Mais c'est tout. Ils étaient très riches parce que les Anglais les ont laissés prélever les taxes sur la population. Indore en particulier était très riche à cause du coton et grâce également aux substances illicites, l'opium et autres. Et ils ne faisaient plus la guerre. Ils avaient un budget militaire qui n'existait plus, ce qui leur permettait de s'enrichir encore plus. Donc ils se sont enrichis encore plus sous les Anglais. Et c'est devenu un peu des princes oisifs.
Oui, qui venaient beaucoup chez nous d'ailleurs, hein, en France, à Paris. Ils achetaient des bijoux extraordinaires, souvent avec leurs propres diamants d'ailleurs, puisqu'à Hyderabad, par exemple, c'était les diamants, hein, qui avaient rendu cette principauté si colossalement riche. Donc on les voit tous en Europe, et notamment votre héros, le Maharaja d'Indore, pour qui la vie est une longue fête, hein, à la montagne, à Saint-Moritz, à la mer, à Cannes, à Venise, à Monaco, il va à Palm Beach, il est dans les boîtes boîtes de nuit de New York et d'Hollywood. Sa femme est très jeune, elle est surnommée Winnie et il fascine absolument tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, tout le monde pense qu'il est l'homme le plus riche du monde.
Exactement. Et il ne dit pas le contraire. Donc c'est vrai que c'est une aventure incroyable d'un couple passionné, amoureux, qui décide de se faire construire le palais le plus moderne du monde, au fin fond de l'Inde. C'est inédit. Encore, la démarche est d'autant plus audacieuse qu'elle a lieu à la fin des années 20, au début de la Grande Dépression, dans une Inde... encore une Inde traditionnelle sous domination britannique.
Et qu'ils ont tous les deux moins de 30 ans. Hein.
Alors, l'aventure commence quand lui a 20 ans et elle 13 ans.
Oui, parce qu'on se marie très jeune.
Ils se sont connus, elle avait 4 ans. Donc, ils ont grandi ensemble, c'est un peu des frères et sœurs. Et c'est vrai que l'instant presque parfait qu'ils mènent ensemble dans le monde s'arrête brutalement avec la mort mystérieuse de la Maharani à l'âge de 22 ans, en 1937.
Jeune femme, oui. Ils ont eu un enfant, une fille, et puis elle meurt très jeune en Suisse d'une péritonite. Mais vous dites aussi qu'elle est morte de fatigue, en fait, parce qu'il mène une vie absolument incroyable.
Voilà, il ne s'arrête jamais. En fait, le Maharaja d'Indore a un rapport très complexe à la sédentarité. Il est toujours en voyage. La plupart du temps en dehors d'Inde. C'est un personnage, alors c'est vrai qu'il y a tout ce côté glamour, ils font partie de la Café Society de l'époque, mais c'est un personnage qui est tiraillé entre deux cultures, entre deux mondes, entre deux rôles. Celui de Maharaja, tenu par les Anglais, surveillé par les Anglais quand il est en Inde, et il n'aspire qu'à une chose, c'est à la liberté. Et il trouve cette liberté grâce à la modernité qui est incomprise en Inde, mais il se plonge à corps perdu dans les années 20 et 30, justement en Occident, pour trouver, c'est un peu sa survie et sa manière de résister aux Anglais.
Alors il fréquente l'avant-garde artistique, il est bien le seul hein, parmi les Maharajas, hein, qui n'étaient pas des foudres de modernité. Il fréquente Henri-Pierre Rocher, l'auteur de Jules et Jim, celui qui était Jules d'ailleurs dans le roman, qui lui présente Man Ray. Man Ray va faire son portrait, c'est d'ailleurs la couverture très belle de votre livre. Il fréquente Brancusi, à qui il achète L'oiseau dans l'espace. Il fait le bonheur des créateurs de mobilier, des fabricants d'automobiles. Et vous l'avez dit, il va faire construire par un architecte allemand à Indore, sa capitale, un palais d'une modernité insolente, géométrique, climatisé. Le premier palais moderne art déco aux Indes en 1930.
Le Maharaja est très jeune, il a 19 ans, il est étudiant à Oxford et il a un seul désir. C'est de plonger dans cette modernité et grâce à son tuteur belge Marcel Hardy, qui est une sorte de professeur Nimbus qui lui ouvre les portes d'un nouveau monde.
Et grâce aussi à sa fortune absolument considérable.
Voilà, alors il a un budget illimité, il est passionné, il comprend qu'on peut vivre libre, moderne, qu'on peut mélanger les styles, qu'on peut voyager sur plusieurs continents. Quand il fait la connaissance d'Henri-Pierre Rocher, c'est la figure absolue de la liberté qui explore toutes les façons possibles de vivre. Et ça, ça le fascine. Et Kurt Mutesius, donc ce jeune architecte allemand qui n'a jamais rien construit encore et qui ne connaît absolument pas l'Inde, qui a le même âge que le Maharaja, ils ont tous les deux 20 ans, ils font un pari de construire ce palais le plus moderne du monde au fin fond de l'Inde.
Et le mobilier sera signé Hélène Gray, Lalic, Le Corbusier, Charlotte Perriand, Ruhlmann, puis Forca. C'est assez extraordinaire. Il a vraiment très bon goût ou il se laisse simplement conduire parce que quand on a les moyens qu'il a, on peut tout se permettre et en général, on trouve de bons guides.
Alors, les artistes, quand ils le voient arriver, quand ils voient arriver ce prince, ce jeune prince indien riche à milliards à la fin des années 20 et que tous leurs mécènes américains sont soit morts ou retournés aux États-Unis, ils se disent « quelle aubaine ». Donc bien sûr, ils lui sautent dessus. Toutes les foires et les stands et tous les objets qu'il crée sont destinés à être achetés au Maharaja. Notamment, il y a une chaise que Ruhlmann élabore. C'est un hommage au ski du Maharaja qui était très connu pour ses skis en diamant et or quand il allait descendre les pistes en Suisse. Et donc, voilà... tous avaient trouvé dans ce jeune prince Maharaja passionné un nouveau mécène et tout le monde s'est jeté dessus. Alors lui avait également son propre mot à dire et son goût, donc il faisait refaire, parce qu'il faut savoir que le climat en Inde n'est pas le même qu'en Occident, et du coup les bois jouaient différemment, et le bureau par exemple que Ruhlmann avait fait pour lui, il a demandé de le refaire dans un autre bois qui allait bien vieillir en Inde. Voilà.
Ça a tellement bien vieilli, d'ailleurs, que quand il y a eu une vente, c'est dans les années 80, hein, la grande vente à Monte Carlo de ce mobilier magnifique, ça a atteint absolument des sommets. Voilà un jeune homme qui a eu quand même une vie absolument incroyable, pas très heureuse. On ne va pas tout raconter, c'est dans votre livre, Géraldine Le Nain, mais on se dit, au fond, on a beau être aussi riche qu'il l'était, la dépression vous guette.
C'était en effet une personne très mélancolique et qui n'a jamais été heureuse, qui a essayé de gouverner, qui n'était pas fait pour gouverner. Il voulait être loin de tout ça, depuis qu'il était petit, avait un poids sur les épaules puisqu'il était destiné à gouverner dans une Inde traditionnelle dont il ne voulait plus. Et il a passé sa vie à fuir. Il a passé sa vie à fuir son père, fuir les tensions, fuir les Anglais. Et c'est vrai que sa vie est un roman, mais faite de drames, d'intrigues de palais et de malheurs.
Merci Géraldine Le Nain. Le dernier Maharaja d'Indore s'est paru au Seuil.
Europe 1.
C'est arrivé demain, arrive à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui sont vos invités ?
Bonjour cher Frédéric, deux invités pour ce grand rendez-vous, Guillaume Pelletier du mouvement Reconquête et Aurélien Pradier des Républicains. Et pour les interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Bonne émission
Europe 1.